Amis de Radio Silence, bonjour. Aujourd'hui, c'est dimanche 26 mai. J'enregistre l'émission au Cameroun, quelque part dans un village, mon village. Il pleut à verse, comme on dit, et vous aurez cette pluie en fond sonore pour vous donner une idée de ce que c'est que les pluies dans un environnement tropical. Bien. L'émission, c'est l'après-Bia, ou plutôt, oui, on va dire comme ça, l'ère de l'après-Bia s'ouvre. C'est ça l'émission. Et elle s'ouvre dans un chaos indescriptible qui a commencé par la fuite d'un courrier présidentiel dans lequel on pouvait lire que le président, depuis février de cette année, a signé une délégation, il a signé une délégation permanente de signature à son secrétaire général, M. Ngongo, ce qui ne pouvait pas passer parce qu'il a été élu en octobre dans les conditions que nous connaissons. Et comment peut-on à peine 3 mois plus tard, faire une délégation permanente de signature à son secrétaire général, tout ça en catimini. Et quelqu'un a pu soustraire le courrier, grâce à Dieu. Et on est au courant, le peuple est au courant. On n'accepte pas parce que c'est pas la logique institutionnelle. Bon, ça compte même plus. C'est pas la constitution. Et c'est surtout ce sentiment de passage du pouvoir de gré à gré. Vous savez, ces marchés de gré à gré qui ont créé beaucoup de problèmes ici lorsqu'ils ont annulé la CAN pour les mêmes raisons, parce que les marchés publics ont été attribués une première fois au niveau des ministères en fonction du champ de compétences de chacun. Puis par la suite, la présidence, le secrétariat général, comme par hasard, c'est une plaque tournante, hein, plaque tournante. À ce moment, le secrétariat général a repris tous ces dossiers-là, à sa façon, redistribué les marchés publics dans de tous ces stades, de gré à gré, là-bas, à la présidence, sans qu'il y ait de concurrence, un scandale. Un scandale qui aboutit au fait que, évidemment, le Cameroun n'a pas pu honorer son rendez-vous, ce qui est pathétique, surtout lorsqu'on entend qu'il y a eu beaucoup de détournements de fonds publics, bien sûr, on ne sait pas, par la magie, vous savez, ils sont toujours ensemble, ces gens-là, comment ça se fait que, quand même, les ministres ont pu détourner leur part, alors qu'ils disent que c'est le secrétariat général qui a repris tout cela en main. Tout cela n'est pas très très clair, et pour le moment, le président couvre tout le monde. Il n'y a pas eu d'enquête, on sait que des milliards ont disparu, mais ça, c'est le développement en Afrique couvert par notre chère France, qui n'a à la bouche que la question démographique, et qui est une question lorsqu'il y a une mauvaise redistribution des richesses, et produites dans un pays, là, effectivement, la démographie compte, mais ça déjà, ce sont des études qui ont été faite en particulier par, je crois, Amartya Sen, qui a montré que l'indice de développement humain tenait compte du degré et du niveau de redistribution des richesses produites par un pays. C'est des études qui datent, et puis on a toujours nos grands experts ici, trop grands experts, ils touchent des salaires faramineux, ils sont toujours en mission, ils sont toujours en conférence internationale, mais en termes de productivité, non seulement intellectuel, technique, managérial, c'est zéro pointé. On se demande même s'ils ont fait des études, ils sont tous truffés de doctorats, je ne sais pas de quoi. L'école doctorat d'abord sont questionnables parce que le niveau de l'instruction aujourd'hui en Afrique, enfin au Cameroun, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a un déficit académique fort. D'ailleurs, il y a une promotion de l'ENA, l'équivalent de l'ENA ici. On appelle ça l'ENAM. Qui donc voilà, le directeur avait dit qu'il y avait un déficit académique. Vous savez, c'est ces écoles où on entre, hein. Il suffit d'entrer, donc vous êtes sorti, vous avez déjà réussi. Bon, évidemment, si vous voulez travailler, c'est très bien. Si vous voulez pas travailler, bah c'est encore mieux. Parce que comme ça, vous serez le bon pantin de service et la France sera très contente, vous serez un très bon élève. Ça, c'est pour vous dire, hein, toujours le contexte, parce qu'il faut toujours contextualiser pour que vous puissiez comprendre pourquoi, enfin comprendre, essayer de toucher du doigt, enfin de vous imprégner de ces réalités afin de mieux apprécier pourquoi on peut parler maintenant de l'après-billard, parce que c'est une philosophie qui ne peut plus tenir. Tout le monde en a marre parce qu'on arrive à une dégénérescence de la société, des mentalités, des comportements et de tout le reste, un appauvrissement généralisé, un taux de chômage, on ne peut pas dire, et des perspectives toutes bloquées. La seule qui reste ouverte, c'est cette décentralisation formidable, un terme formidable qu'on découvre ici. Quand on sait que la décentralisation n'a rien apporté ou presque à la France, je ne vois pas pourquoi il y a un tel engouement. Là aussi, déficit académique, déficit d'expertise, on regarde même pas ce que ailleurs ça n'a pas marché, cet ultra-centralisme à la française, ça marche pas. Ça marche pas parce que au-dessus, ça crée cette super structure marxiste. Voilà encore des références qu'on a oubliées ici parce qu'il faut vraiment tirer le côté positif des choses qui fait que à la tête, on a un roi. Et on a un prince à la Machiavel qui décide de tout, c'est hyper centralisé. Vous parlez de quelle décentralisation là? Ça ne marchera pas, elle est toujours reprise de l'autre côté, de l'autre main. Ce qu'on donne d'une main, on la reprend, enfin, on le reprend de l'autre. Vous connaissez tout ça. Et là-dessus, donc, on a commencé avec cette signature, un round incroyable, la CAN incroyable. Et tout le reste, je vous passe là, le contrôle jamais, pas de responsabilité, pas de contrôle. Les ministres, ils font ce qu'ils font, ça c'est comme en France, hein, vous savez, vous venez, vous dites que vous travaillez, ça c'est vous qui le dites. On n'a jamais un bilan de ce que vous avez fait exactement, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous avez trouvé. On n'audite rien. Il y a une inspection d'État qui est là, qui ne fait aucun audit. Bref, l'après-billard a donc commencé dans ce chaos généralisé. La compagnie, on avait une compagnie ici, la compagnie, la Camair Airlines, bah, elle s'est écroulée, elle a essayé de redémarrer, elle s'est réécroulée de nouveau. Là aussi, déficit d'expertise, pas de techniciens, on a des écoles d'ingénieurs, on a des écoles de polytechniciens, on a des écoles d'ingénieurs en télécommande, tout ce que vous pouvez imaginer, mais on ne voit jamais un pont qui est construit, on ne voit pas de, comment on appelle ça, de grands échangeurs, on n'a pas de route, on n'a rien, l'aménagement urbain, c'est un désordre, vous construisez où vous voulez, comme vous voulez, ça c'est pas le problème, celui qui a les sous, il fait un peu ce qu'il veut. Politiquement parlant, je ne vais pas parler de la santé parce que... politiquement parlant, alors, donc Biya ne sait plus, j'ai envie de dire à quel saint se vouer. On a assisté ici le 20 mai, c'est la fête de l'unité nationale, puisque c'est de ça qu'on va parler politiquement. L'unité nationale, c'est la partie anglophone du pays qui est en guerre civile larvée en ce moment, complètement révoltée contre l'État Yaoundé, là, la centrale. Et qui veulent leur sécession, tout simplement. Ils ne veulent plus faire partie de la part du Cameroun, parce que le Cameroun est sous l'emprise française qui apporte une façon de gouverner à la France africaine. Ça, ils ne veulent plus, parce que ça gèle les choses, ça crée de l'injustice, et les choses n'avancent pas du tout. Pas de développement, pas de progrès, que d'injustice, nomination clanique, les écoles, comme je vous ai dit, déficit partout. Les anglophones ne veulent plus de ce bazar, ils ont pris les armes. On a donc cela, et pourtant, le 20 mai, c'était quoi? Le 20 mai, c'est le moment où la date à laquelle il y a eu donc cette signature entre la partie anglophone camerounaise qui était sous la tutelle britannique et la partie francophone qui était sous la tutelle française. Ils ont décidé de se réunir pour faire un seul et grand Cameroun, une très bonne idée. Ça, c'était en 72. Les deux parties sont, pour la partie anglophone, indépendantes depuis 1961 et la partie francophone depuis 1960. Bon, indépendant, indépendant, bon, faut comprendre. La partie anglophone, oui, indépendance, vrai, les Britanniques sont partis. La partie francophone, non, pas d'indépendance, les Français sont toujours là, les multinationales sont là, tout ce que vous avez entendu sur le franc CFA est là, bref, tout est verrouillé de l'intérieur par la France, les bases militaires. Aujourd'hui, c'est le Niger qui s'est élevé, enfin ils ont défilé contre cela, il faut que les bases militaires s'en aillent. Le Mali, l'autre fois, c'était pareil. On demande partout maintenant à la France de partir parce qu'elle gèle l'Afrique. C'est elle qui fait en sorte que le gouvernement déraille, c'est elle qui fait en sorte que le gouvernement soit irresponsable. On me dira, mais c'est très beau, pourquoi ils peuvent dire non? Ils ne peuvent pas dire non. C'est la France-Afrique, vous connaissez la France-Afrique, c'est ces gens, un leadership qui est associé pour piller le continent. Il faut changer donc le leadership pour que les choses changent ici, mais ça la France ne veut pas. Donc il y a donc cette guerre-là, donc les anglophones, et il y a eu tout un balai ici parce que ça s'est aggravé puisqu'entre-temps on a mis l'opposant M. Kamto en prison, mais ça on l'avait dit. Ça va qu'en s'aggravant et la communauté internationale est intervenue. L'Union européenne a demandé la libération des prisonniers politiques et la résolution de la crise humanitaire que ça entraîne. Parce que vous savez, quand une guerre civile arrive, c'est terrible. Les réfugiés, les morts, les déplacés, plus d'école, plus rien. Alors peut-être qu'on peut faire, avant de parler du rang diplomatique avec lequel on va terminer, dire quand même d'où vient la crise, pour que vous compreniez pourquoi le chaos gouvernemental est à son apogée. Ça a commencé tout bêtement par des enseignants qui ont revendiqué des conditions de travail équitables par rapport à leurs homologues francophones. Bon, on leur a dit, allez vous faire foutre. Ça a suivi par des avocats et des magistrats qui ont demandé qu'on retranscrive les textes de loi en anglais, parce que c'est tout en français. Donc, il y a une dictature francophone qui s'établissait déjà, y compris par les écrits. Là aussi, on leur a dit, allez vous faire foutre. Les étudiants aussi sont sortis de la partie anglophone pour revendiquer quand même aussi des meilleures conditions, je sais pas quoi. Là, ça a été pareil, la même réponse, des rats, allez vous faire foutre. Qui êtes-vous? Vous comptez pourquoi? Bon, c'est vrai qu'ils sont, je sais pas, c'est peut-être un rapport de 20% à 80%. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de richesses dans ce pays-là, et notamment le pétrole du Cameroun, il vient du Nord-Ouest et de la zone en guerre. Le café et le cacao, beaucoup là-bas. De très grosses entreprises là-bas, de très grosses infrastructures. Du coup, on ne peut pas parler comme ça aux gens. Vous voyez, ça commençait par des professions nobles qui demandaient des choses nobles, mais comme déjà ici, entre les francophones, parce que là, les anglophones ont cru qu'ils étaient seuls concernés. Même ici, au niveau de la partie francophone, c'est injustice sociale, nomination clanique. À l'ENAM, c'est devenu l'école des héritiers, comme Bourdieu le disait, la noblesse d'État. C'est les fils des ministres qui sont là-bas, qui sont déjà, ils prévoient la relève. Hein? Toutes ces choses-là, ben, les anglophones n'acceptent plus. Et la guerre, elle est partie de quelque chose, de ça. D'un problème aussi bête que cela et d'une ultra-suffisance du gouvernement qui n'écoute personne, qui fait comme il veut. Enfin, c'est hallucinant, c'est tout simplement hallucinant. Et on a ce qu'on a là. Le rang diplomatique arrive 3 ans plus tard, parce que ça date de 2016. Le rang diplomatique arrive, vous vous rendez compte, on parle de 2000 morts, mais quand on dit 2000 morts, bon, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu dans la forêt. On ne compte pas les maisons brûlées, les villages détruits, les déplacés, les mutilés, toutes les horreurs de la guerre. L'élection présidentielle s'est faite carrément là-bas, les gens n'ont pas voté. Donc on accepte l'élection, mais on sait très bien qu'elle n'est pas représentative. Et notamment, elle ne représente pas du tout le vote du côté anglophone parce qu'ils ne pouvaient pas voter. vous êtes en guerre, vous votez pas. C'était pas possible. Des gens étaient menacés. Là, au moment du défilé du 20 mai, on arrive alors. Il y a des gens du RDPC, le parti du président Biya, qui ont défilé carrément voilés, masqués, parce que si on vous repère, voilà. Bref, nous avons ce climat-là qui est vraiment délétère, qui est triste et pathétique à voir, parce que tout cela passe pour de l'argent finalement, parce qu'on veut un compte bancaire en Suisse, parce qu'on veut des châteaux, je ne sais pas, ou parce qu'on veut piller. Vous ne comprenez même pas à quoi ça rime. Du coup, cet après Biya, il se pose comment alors ? Maintenant, la communauté internationale, elle est venue. C'était d'abord M. Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines de M. Trump, qui est venu, qui a essayé de faire son tour diplomatique en essayant d'être, croyant que M. Biya lâcherait du lest comme ça, mais il ne connaît pas. Ensuite, on a l'Union européenne qui a exigé les mêmes choses, libérer les prisonniers, ouvrir un dialogue avec les combattants et puis ramener la paix. Là-dessus, l'Amérique convoque conseil de sécurité. Non, la secrétaire d'abord. Comment on appelle ça? La haute commissaire aux droits de l'homme, Madame Michelle Bachelet, est venue ici, l'ex-présidente, vous savez, qui a une histoire très romantique. Mais elle a pu faire quoi? Elle a rencontré un peu tout le monde, le pouvoir, beaucoup. D'ailleurs, il paraîtrait que c'est le président Biya qui l'a invité, vous savez, un peu la poudre aux yeux. Ça fait bien. Le président Biya, politiquement, bon, de ce qu'on a vu le 20 mai, ça c'est une parenthèse, c'est pas lui qui décide, c'est le secrétaire général qui décide, parce que M. Biya, il a paru totalement désorienté. Je ne vais pas parler de ça, parce que moi, je ne tire pas sur les ambulances. C'était triste à voir. Sa femme est arrivée aussi, on ne sait pas si c'est elle, si c'est un sosie. Elle a perdu 50 kilos, je ne sais pas trop combien, en moins de 2 mois. C'est une histoire de fou. Elle a tombé la perruque, c'était toute une mise en scène incroyable. Mais on s'en fout de son épouse, tout ce qu'on voit, c'est que c'est elle qui l'aide à lever les bras, mets-toi à gauche, tourne-toi à gauche, lève le bras gauche, ben, elle lève les deux bras. C'était macabre. Bon, le président, je ne vais pas insister plus que ça, tout ce qu'il a fait, mais on a compris qu'il n'avait plus la main, il faut qu'il la passe, il avait même presque plus sa vie, je ne sais pas s'il voit... Parce qu'on dirait qu'il voit plus bien, c'est pas, il y a des problèmes, il y a des problèmes, parce que quand on a à vous tenir comme un pantin, mets-toi à gauche, mets-toi à droite, non c'est à droite, lève les bras, c'était triste, c'était affligeant. Mais il fallait qu'il soit là, parce que nous on n'a pas accepté la délégation, quand je dis nous les Camerounais, on n'a pas accepté la délégation permanente de signature, donc on veut le voir lui, on l'a élu lui, et pas voilà, quelqu'un qui est caché à la présidence, qui attend... le truc de gré à gré. Donc, Mme Michelle Bachelet est venue. Elle a écouté tout le monde, hein, l'opposition, je sais pas quoi, la société civile. À la fin, il s'est passé quoi? Pas grand-chose. Elle est repartie. Mais bon, elle a fait acte de présence. Et Trump a convoqué une réunion, on va appeler ça informelle, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont redit ce qu'ils ont dit. Il faut un dialogue. Alors, ça, c'est le dernier moment qui est intéressant. Parce que depuis qu'on a insisté quand même, le président Biya, pour une fois, il a bougé, il a envoyé son premier ministre, qui est anglophone, comme par hasard, enfin, une chance. Ça, c'était le deal, hein. Le deal, c'est que le président est français, francophone. Le premier ministre, qui ne représente rien du tout, il est là, il est anglophone. Bon, c'est pour faire plaisir, mais ça, les anglophones, il leur en faut plus, hein, pour les amadoués. Voilà, c'est ça, c'est le truc. Il est allé là-bas, il a essayé de parler pidgin, ils ont discuté. Il commence à venir, on a dit qu'il fallait un dialogue sans précondition et que le dialogue nécessitait qu'on sorte tous les combattants de prison et qu'il y ait un cessez-le-feu des deux côtés, c'est-à-dire que les militaires arrêtent et puis les Ambazoniens aussi, comme ils s'appellent, parce qu'ils veulent créer une république d'Ambazonie, arrêtent aussi. Rien ne se passe comme ça devait se passer, parce qu'à peine le dialogue ouvert, le président dit qu'il ne veut pas qu'on discute sur la forme de l'État, c'est-à-dire on reste unis, il n'y aura pas... Avant, c'était une fédération, il n'y aura pas de partition ni de fédération, on reste unis, on fera peut-être la décentralisation dont on va discuter. Bah. Et le problème, justement, c'est ça. Les anglophones veulent qu'on discute la forme de l'État. Et si on ne discute pas la forme de l'État, il faut qu'il y ait des garanties institutionnelle et constitutionnelle qui fasse en sorte que on puisse repartir comme avant. Et là, on est bloqué. Le dialogue a fait semblant de commencer. C'était la mise en scène comme d'habitude. Et puis là, il n'y a plus rien. Plus dialogue national, plus rien. On a fêté ici de notre côté francophone. Les anglophones, je ne sais pas, ils ont fait, s'ils ont fêté ou quoi, on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne vit plus ensemble. On est dans des temporalités différentes. Et c'est très difficile de voir comment les anglophones vont s'apaiser parce que le président de son côté ne fait aucun geste d'apaisement. Il ne sort pas les prisonniers, il ne sort pas les combattants, il plie pas quoi, il fait pas de concessions. Au contraire, il exige qu'il y ait pas ci, qu'il y ait pas ça. Donc ce n'est plus un dialogue, ce n'est plus un dialogue, c'est encore de l'autorité qui s'abat comme ça fortement, et laquelle autorité est contestée fondamentalement. Parce qu'elle fait croire que les choses n'ont pas changé. Et effectivement, elles n'ont pas changé. On est là, il n'y a pas de dialogue. On est suspendu, le Cameroun est dans l'expectative. Ce qui est sûr de ce qu'on a vu le 20 mai, le président se prépare certainement. Il doit passer la main parce qu'il ne peut plus diriger. Qu'est-ce qui va se passer? C'est autant suspendre ton vol. Je ne sais même pas comment vous dire. On est là, on attend. Je ne sais pas qui on attend, mais on attend que, ça c'est camerounais, hein. Peut-être qu'il y ait une averse comme celle-ci. Je ne sais pas, on n'attend rien, mais on est confiant du côté francophone que, de toute façon, les anglophones, ils pourront faire quoi? Ils pourront rien faire. Et puis le président continue comme ça. Franchement, si la communauté internationale n'insiste pas plus que ça, le Cameroun est parti dans un désordre affolant qui peut très vite dériver vers une vraie guerre civile. Et quand on parle alors de décentralisation là derrière, vous voyez un peu, hein, ça ne peut pas marcher. D'autres ont dit non, on fait une fédération avec 10 États, tout ça, bon, ça c'est du délire. Si déjà on ne peut pas gérer comme ça une pièce en bloc, c'est pas la fédération, ça marchera pas, évidemment. Décentralisation au sens de régionalisation, oui, mais encore faut-il qu'il y ait des signes qui montrent que le président a changé, que la gouvernance a changé et que Biya va passer la main, parce que ça, c'est l'autre condition des Ambazoniens. On ne peut pas reprendre comme avant. Ça veut dire que si même les anglophones et les francophones sont d'accord pour se remettre, enfin, que les anglophones veulent bien qu'on reprenne comme avant, c'est sans le président et sans la France. Voyez un peu, c'est le chaos. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un autre mot. C'est certains disent en ce moment, vous savez, il y a un mot à ce moment qui est très à la mode, on dit l'impasse. Non, nous n'en sommes pas encore là, c'est des exagérations. En parlant je crois, de l'Algérie, on parle d'impasse, mais non, l'Algérie n'est pas dans l'impasse, c'est normal, c'est un processus. Mais les pays ont une histoire, je veux dire, on connaît l'Afrique, on ne la connaît pas aussi. C'est-à-dire que l'Afrique ne bouge pas aussi vite que l'Occident, c'est normal. Donc, de là à parler d'impasse, c'est aller un peu trop vite en besogne, c'est comme au Soudan, ça se grippe, mais quelque part. Eux, ils sont plus dans la clarté que le Cameroun. Le Cameroun, vraiment, c'est bloqué. C'est bloqué. Et la seule personne qui peut débloquer les choses, c'est le président Biya. Comment il va sortir de la scène? Là, c'est le casse-tête chinois. Parce que s'il sort de la scène, vous voyez un peu, tous ceux qui sont autour de lui sont en danger. Ils commencent à tomber. On en est là, vous allez me dire, c'est pas loin du scénario algérien où les généraux tiennent, soudanais aussi où l'armée tient, parce qu'ils ont chacun des intérêts à protéger. Oui, mais pendant combien de temps? Moi, je pense que tout cela est en train de s'écrouler, mais bien sûr, c'est la suite maintenant qu'on attend. Bien. Amis de Radio Silence, voyez, moi-même, je finis cette émission dans le flou, parce que c'est exactement ça. Nous sommes dans le flou. On ne sait pas si on va aller à gauche ou à droite. Le dialogue, il se fait pas. On était très contents qu'il puisse se faire. Et puis là, plus rien, comme d'habitude. Bien, c'était Elise Mbok depuis mon village qui s'appelle Botmakak, que vous connaissez déjà, au Cameroun. Je vous dis bonne semaine et portez-vous bien. En France, on attend les résultats des européennes. Bonne chance!